Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc dans Lectures en liberté pour la suite du roman de Alain Fournier, Le Grand Mône. Il y avait cependant une nouvelle heureuse que j'annonçais à Milly lorsqu'elle se décida à m'interroger sur la nouvelle mariée. Je redoutais ses questions, sa façon à la fois très innocente et très maligne de vous plonger soudain dans l'embarras en mettant le doigt sur votre pensée la plus secrète. Je coupai court à tout en annonçant que la jeune femme de mon amie Maune serait mère au mois d'octobre. À part moi, je me rappelais le jour où Yvonne de Galais m'avait fait comprendre cette grande nouvelle. Il y avait eu un silence, et de ma part un léger embarras de jeune homme. Et j'avais dit tout de suite inconsidérément pour le dissiper, songeant trop tard à tout le drame que je remuais ainsi. « Vous devez être bien heureuse. » Mais elle, sans arrière-pensée, sans regret, ni remords, ni rancune, elle avait répondu avec un beau sourire de bonheur, « Oui, bien heureuse. » Durant cette dernière semaine des vacances, qui est en général la plus belle et la plus romantique, semaine où l'on commence à allumer les feux, et que je passais d'ordinaire à chasser dans les grands sapins noirs et mouillés du vieux Nançay, je fis mes préparatifs pour rentrer directement à Saint-Benoît-des-Champs. Firmin, ma tante Julie et mes cousines du vieux Nançay m'eussent posé trop de questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Je renonçai pour cette fois à mener durant 8 jours la vie enivrante de chasseur campagnard et je regagnai ma maison d'école 4 jours avant la rentrée des classes. J'arrivai avant la nuit dans la cour déjà tapissée de feuilles jaunies. Le voiturier parti, je déballai tristement dans la grande salle à manger sonore et renfermai le paquet de provisions que m'avait fait maman. Après un léger repas du bout des dents, impatient, anxieux, je mis ma pèlerine et partis pour une fiévreuse promenade qui me mena tout droit aux abords des Sablonnières. Je ne voulus pas m'y introduire en intrus dès le premier soir de mon arrivée. Cependant, plus hardi qu'en février, après avoir tourné tout autour du domaine où brillait seule la fenêtre de la jeune femme, je franchis, derrière la maison, la clôture du jardin et m'assis sur un banc contre la haie dans l'ombre commençante, heureux simplement d'être là, tout près de ce qui me passionnait et m'inquiétait le plus au monde. La nuit venait. Une pluie fine commençait à tomber. La tête basse, je regardais sans y songer mes souliers se mouiller peu à peu et luire d'eau. L'ombre m'entourait lentement. Et la fraîcheur me gagnait sans troubler ma rêverie, tendrement, tristement. Je rêvais au chemin boueux de Sainte-Agathe, par ce même soir de septembre. J'imaginais la place pleine de brume, le garçon boucher qui siffle en allant à la pompe, le café illuminé, la joyeuse voiturée avec sa carapace de parapluies ouverts qui arrivait avant la fin des vacances chez l'oncle Florentin et je me disais tristement qu'importe tout ce bonheur, puisque Maune, mon compagnon, ne peut pas y être, ni sa jeune femme. C'est alors que, levant la tête, je la vis, à deux pas de moi. Ses souliers dans le sable faisaient un bruit léger que j'avais confondu avec celui des gouttes d'eau de la haie. Elle avait sur la tête et les épaules un grand fichu de laine noire, et la pluie fine poudrait sur son front ses cheveux. Sans doute de sa chambre m'avait-elle aperçu par la fenêtre qui donnait sur le jardin. Et elle venait vers moi. Ainsi ma mère, autrefois, s'inquiétait et me cherchait pour me dire « il faut rentrer ». Mais ayant pris goût à cette promenade sous la pluie et dans la nuit, elle disait seulement avec douceur « tu vas prendre froid ». Et restait en ma compagnie à causer longuement. Yvonne de Galais me tendit une main brûlante, et renonçant à me faire entrer aux sablonnières, elle s'assit sur le banc moussu et vert de grisé, du côté le moins mouillé, tandis que, debout, appuyé du genou à ce même banc, je me penchais vers elle pour l'entendre. Elle me gronda d'abord amicalement pour avoir ainsi écourté mes vacances. Ben, « il fallait bien, répondis-je, que je vinsse au plus tôt pour vous tenir compagnie. » « Il est vrai, dit-elle, presque tout bas, avec un soupir, je suis seul encore. Augustin n'est pas revenu. » Prenant ce soupir pour un regret, un reproche étouffé, je commençai à dire lentement « tant de folie dans une si noble tête. » Peut-être le goût des aventures plus fort que tout. Mais la jeune femme m'interrompit. Et ce fut en ce lieu, ce soir-là, que pour la première fois et la dernière fois, elle me parla de Mône. « Ne parlez pas ainsi, dit-elle doucement. François Serel, mon ami, il n'y a que nous. Il n'y a que moi de coupable. Songez à ce que nous avons fait. Nous lui avons dit, voici le bonheur, voici ce que tu as cherché pendant toute ta jeunesse, voici la jeune fille qui était à la fin de tous tes rêves. Comment celui que nous poussions ainsi par les épaules n'aurait-il pas été saisi d'hésitation, puis de crainte, puis d'épouvante? Et n'aurait-il pas cédé à la tentation de s'enfuir? Yvonne, dis-je tout bas, vous saviez bien que vous étiez ce bonheur-là, cette jeune fille-là. Ah, soupira-t-elle, comment ai-je pu un instant avoir cette pensée orgueilleuse? C'est cette pensée-là qui est la cause de tout. Je vous disais, peut-être que je ne puis rien faire pour lui, et au fond de moi je pensais, puisqu'il m'a tant cherché, puisque je l'aime, il faudra bien que je fasse son bonheur. Mais quand je l'ai vue près de moi, avec toute sa fièvre, son inquiétude, son remords mystérieux, j'ai compris que je n'étais qu'une pauvre femme comme les autres. « Je ne suis pas digne de vous, répétait-il, quand ce fut le petit jour et la fin de la nuit de nos noces. » J'essayais de le consoler, de le rassurer, rien ne calmait son angoisse, alors j'ai dit « il faut que vous partiez ». Si je suis venu vers vous au moment où rien ne pouvait vous rendre heureux, s'il faut que vous m'abandonniez un temps pour ensuite revenir apaisé près de moi, c'est moi qui vous demande de partir. Dans l'ombre, je vis qu'elle avait baissé les yeux. C'était comme une confession qu'elle m'avait faite. Et elle attendait, anxieusement, que je l'approuve ou la condamne. Mais que pouvais-je dire? Certes, au fond de moi, je revoyais le grand Mône de jadis, gauche et sauvage, qui se faisait toujours punir plutôt que de s'excuser ou de demander une permission qu'on lui eût certainement accordée. Sans doute aurait-il fallu qu'Yvonne de Galais lui fît violence et, lui prenant la tête entre ses mains, lui dit « qu'importe ce que vous avez fait, je vous aime, tous les hommes ne sont-ils pas des pécheurs ?» Sans doute avait-elle eu grand tort, par générosité, par esprit de sacrifice, de le rejeter ainsi sur la route des aventures. Mais comment aurais-je pu désapprouver tant de bonté, tant d'amour? Il y eut un long moment de silence pendant lequel, troublés jusqu'au fond du cœur, nous entendions la pluie froide dégoutter dans les haies et sous les branches des arbres. Il est donc parti au matin, poursuivit-elle. Plus rien ne nous séparait désormais. Et il m'a embrassé simplement, comme un mari qui laisse sa jeune femme avant un long voyage. Elle se levait. Je pris dans la mienne sa main fiévreuse, puis son bras, et nous remontâmes l'allée dans l'obscurité profonde. « Pourtant, il ne vous a jamais écrit ?» demandai-je. « Jamais !» répondit-elle. Et alors la pensée nous venant à tous deux de la vie aventureuse qu'il menait à cette heure sur les routes de France ou d'Allemagne, nous commençâmes à parler de lui comme nous ne l'avions jamais fait. Détails oubliés, impressions anciennes nous revenaient en mémoire tandis que, lentement, nous regagnions la maison, faisant à chaque pas de longues stations pour mieux échanger nos souvenirs longtemps, jusqu'aux barrières du jardin, dans l'ombre. J'entendis la précieuse voix basse de la jeune femme, et moi, repris par mon vieil enthousiasme, je lui parlais sans me lasser, avec une amitié profonde de celui qui nous avait abandonnés.
Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
En liberté, Denis Flagel.
Et nous revoici à nouveau, après cet instant musical, pour la suite du roman de Alain Fournier, Le Grand Mône. La classe devait recommencer le lundi. Le samedi soir, vers 5 heures, une femme du domaine entra dans la cour de l'école où j'étais occupé à scier du bois pour l'hiver. Elle venait m'annoncer qu'une petite fille était née aux Sablonnières. L'accouchement avait été difficile. À 9 heures du soir, il avait fallu demander la sage-femme de Prévrange. À minuit, on avait attelé de nouveau pour aller chercher le médecin de Vierzon. Il avait dû appliquer les fers. La petite avait la tête blessée et criait beaucoup, mais elle paraissait bien en vie. Yvonne de Galais était maintenant très affaissée, mais elle avait souffert et résisté avec une vaillance extraordinaire. Je laissai là mon travail, courus revêtir un autre paletot, et content en somme de ces nouvelles, je suivis la bonne femme jusqu'aux sablonnières. Avec précaution, de crainte que quelqu'un des deux blessés ne fût endormi, je montai par l'étroit escalier de bois qui menait au premier étage. Et là, M. de Galais, le visage fatigué mais heureux, me fit entrer dans la chambre où l'on avait provisoirement installé le berceau entouré de rideaux. Je n'étais jamais entré dans une maison où fût né le jour même un petit enfant, que cela me paraissait bizarre et mystérieux et bon. Il faisait un soir si beau, un véritable soir d'été, que M. de Galais n'avait pas craint d'ouvrir la fenêtre qui donnait sur la cour. Accoudé près de moi sur l'appui de la croisée, il me racontait avec épuisement et bonheur le drame de la nuit. Et moi qui l'écoutais, je sentais obscurément que quelqu'un d'étranger était maintenant avec nous dans la chambre. Sous les rideaux, cela se mit à crier un petit cri aigre et prolongé. Alors, M. de Galais me dit à demi-voix, c'est cette blessure à la tête qui l'a fait crier. Machinalement, on sentait qu'il faisait cela depuis le matin et que déjà il en avait pris l'habitude. Il se mit à bercer le petit paquet de rideaux. Elle rit déjà, dit-il, et elle prend le doigt. Mais vous ne l'avez pas vue ? Il ouvrit les rideaux et je vis une rouge petite figure bouffie, un petit crâne allongé et déformé par les fers. « Ce n'est rien, dit M. de Galais, le médecin a dit que tout cela s'arrangerait de soi-même. Donnez-lui votre doigt, elle va le serrer. » Je découvrais là comme un monde ignoré. Je me sentais le cœur gonflé d'une joie étrange que je ne connaissais pas auparavant. Monsieur de Galais entr'ouvrit avec précaution la porte de la chambre de la jeune femme. Elle ne dormait pas. « Vous pouvez entrer, » dit-il. Elle était étendue, le visage enfiévré au milieu de ses cheveux blonds épars. Elle me tendit la main en souriant d'un air las. Je lui fis compliment de sa fille, d'une voix un peu rauque et avec une rudesse inaccoutumée, la rudesse de quelqu'un qui revient du combat. « Ouais, mais on me l'a abîmée, » dit-elle en souriant. Il fallut bientôt partir pour ne pas la fatiguer. Le lendemain dimanche, dans l'après-midi, je me rendis avec une hâte presque joyeuse aux sablonnières. À la porte, un écriteau fixé avec des épingles arrêta le geste que je faisais déjà, prière de ne pas sonner. Je ne devinais pas de quoi il s'agissait. Je frappai assez fort. J'entendis dans l'intérieur des pas étouffés qui accouraient. Quelqu'un que je ne connaissais pas et qui était le médecin de Vierzon m'ouvrit. « Eh bien, qu'y a-t-il » fis-je vivement. « Chut, chut !» me répondit-il tout bas, l'air fâché. La petite fille a failli mourir cette nuit et la mère est très mal. Complètement décontenancé, je le suivis sur la pointe des pieds jusqu'au premier étage. La petite fille, endormie dans son berceau, était toute pâle, toute blanche, comme un petit enfant mort. Le médecin pensait la sauver. Quant à la mère, il n'affirmait rien. Il me donna de longues explications comme au seul ami de la famille. Il parla de congestion pulmonaire, d'embolie. Il hésitait, il n'était pas sûr. Monsieur de Galais entra, affreusement vieilli en deux jours, hagard et tremblant. Il m'emmena dans la chambre sans trop savoir ce qu'il faisait. « Il faut, me dit-il tout bas, qu'elle ne soit pas effrayée. Il faut à ordonner le médecin, lui persuader que cela va bien. » Tout le sang à la figure, Yvonne de Galais était étendue, la tête renversée comme la veille. les joues et le front rouge sombre, les yeux par instants révulsés, comme quelqu'un qui étouffe, elle se défendait contre la mort avec un courage et une douceur indicible. Elle ne pouvait pas parler, mais elle me tendit sa main en feu avec tant d'amitié que je faillis éclater en sanglots. « eh bien, dit M. de Galet très fort, avec un enjouement affreux qui semblait de folie, vous voyez que pour une malade, elle n'a pas l'air d'avoir trop mauvaise mine. » Et je ne savais que répondre. Mais je gardais dans la mienne la main horriblement chaude de la jeune femme mourante. Elle voulut faire un effort pour me dire quelque chose, me demander je ne sais quoi. Elle tourna les yeux vers moi, puis vers la fenêtre, comme pour me faire signe d'aller dehors chercher quelqu'un. Mais alors une affreuse crise d'étouffement la saisit. Ses beaux yeux bleus, qui un instant m'avaient appelé si tragiquement, se révulsèrent. Ses joues et son front noircirent et elle se débattit doucement, cherchant à contenir jusqu'à la fin son épouvante et son désespoir. On se précipita, les médecins et les femmes, avec un ballon d'oxygène, des serviettes, des flacons, tandis que le vieillard penché sur elle criait, criait, comme si déjà elle eût été loin de lui, de sa voix rude et tremblante. « N'aie pas peur, Yvonne, ce ne sera rien, tu n'as pas besoin d'avoir peur. » Puis la crise s'apaisa. Elle put souffler un peu, mais elle continua à suffoquer à demi, les yeux blancs, la tête renversée, luttant toujours, mais incapable, fût-ce un instant pour me regarder et me parler, de sortir du gouffre où elle était déjà plongée. Et comme je n'étais utile à rien, je dus me décider à partir. Sans doute, j'aurais pu rester un instant encore. Et à cette pensée, je me sens étreint par un affreux regret. Mais quoi ? J'espérais encore. Je me persuadais que tout n'était pas si proche. En arrivant à la lisière des sapins, derrière la maison, songeant au regard de la jeune femme tournée vers la fenêtre, j'examinais avec l'attention d'une sentinelle ou d'un chasseur d'hommes la profondeur de ce bois par où Augustin était venu jadis et par où il avait fui l'hiver précédent. Hélas, rien ne bougea. Pas une ombre suspecte, pas une branche qui remue. Mais à la longue, là-bas, vers l'allée qui venait de Prévrange, j'entendis le son très fin d'une clochette. Bientôt parut au détour du sentier un enfant avec une calotte rouge et une blouse d'écolier que suivait un prêtre. Et je partis, dévorant mes larmes. Le lendemain était le jour de la rentrée des classes. À 7 heures, il y avait déjà 2 ou 3 gamins dans la cour. J'hésitais longuement à descendre, à me montrer. Et lorsque je parus enfin, tournant la clé de la classe moisie qui était fermée depuis 2 mois, ce que je redoutais le plus au monde arriva. Je vis le plus grand des écoliers se détacher du groupe qui jouait sur le préau et s'approcher de moi. Il venait me dire que la jeune dame des Sablonnières était morte hier, à la tombée de la nuit. Tout se mêle pour moi, tout se confond dans cette douleur. Il me semble maintenant que jamais plus je n'aurai le courage de recommencer la classe. Rien que traverser la cour aride de l'école, c'est une fatigue qui va me briser les genoux. Tout est pénible, tout est amer puisqu'elle est morte. Le monde est vide, les vacances sont finies. Finies les longues courses perdues en voiture, finie la fête mystérieuse, tout redevient la peine que c'était. J'ai dit aux enfants qu'il n'y aurait pas de classe ce matin. Ils s'en vont, par petits groupes, porter cette nouvelle aux autres à travers la campagne. Quant à moi, je prends mon chapeau noir, une jaquette bordée que j'ai, et je m'en vais, misérablement, vers les Sablonnières. Et nous avons terminé pour ce soir ce passage du roman de Alain Fournier, Le Grand Monde, que nous reprendrons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.